Afrique, le train de l'histoire avec ses 12 embras.
Quinzaine d'hommes, en bonne santé évidemment, pour travailler dans les plantations.
Laissez-moi voir les dents.
Tiens, celui-là par exemple, approche.
La bouche.
Oui. Oui, celui-là, je le prends.
Les envoyés du roi n'amenaient jamais les esclaves le jour. C'était uniquement pendant la nuit qu'on les traînait. On arrivait ici la nuit. Ceux qui étaient parents du roi étaient mis dans leur cabane. Ceux qui ne l'étaient pas étaient mis sous l'arbre. Et on va dans les cinq forts pour informer les maîtres de l'arrivage. Et chacun des maîtres de fort viendra proposer le nombre d'objets correspondant au groupe. De 1580 à 1848, il n'y avait pas eu d'achat d'esclaves, mais d'échange. C'est-à-dire que c'était des objets qui se donnaient en échange des hommes. Des miroirs, des tissus, des liquides, des pacotis, quoi. Des canons, etc. étaient troqués contre les hommes. Bon, pour un canon, par exemple, ça dépend de sa grandeur. C'était entre 10 et 15 esclaves. Et quand c'est rien que les femmes, que madame veut m'excuser, c'est jusqu'à 21 femmes contre un canon. Donc, quand on les amenait ici, on les mettait sous l'arbre, on informe les maîtres de fort. Chacun des maîtres de fort viendra voir le groupe et proposer ce que lui peut donner en échange, le nombre d'objets que lui peut remettre. Si les cinq forts ont passé, on va se retirer. Les envoyés du roi vont se retirer pour analyser, voir le fort qui a proposé plus d'objets. Et c'est à ces forts-là que les esclaves ont été remis.
Les envoyés des rois locaux, c'est-à-dire des Africains.
Oui. Donc c'est comme ça que la vente se faisait.
Nous sommes à Ouida, au Bénin, à 42 km de Cotonou, la principale ville du pays. Ouida, au bord de la mer, est une ville historique du fait de son passé dans le commerce négrier. Portugais, français, anglais, hollandais et danois y avaient construit des forts où les négriers stockaient leurs marchandises, c'est-à-dire les nègres acquis, achetés ou échangés et en attente de déportation vers les nouvelles colonies d'Amérique. Les transactions avaient lieu sous l'arbre aux enchères, un arbre plus que tricentenaire, encore bien enraciné dans la terre de Ouida, devant ce qui était le domicile de Francisco de Souza, directeur du port portugais de la ville aux environs de 1700. Mais l'affaire était si juteuse que l'envoyé du Portugal se mit à son propre compte, s'installa dans Romé, y prit femme, fit de nombreux enfants et prospéra à l'ombre de l'arbre aux enchères. Avec, vous venez de l'entendre, la bienveillance, voire la participation active des chefferies locales. Le professeur Félix Iroko.
Nous y avons participé très activement. C'est nous-mêmes qui sollicitions ces blancs-là parce que nous aimons les marchandises qu'ils apportaient. C'était sur la base du paiement de taxes et d'impôts qu'on appelait les coutumes. Sur la base d'échanges de cadeaux, il y avait des liens d'amitié très solides qui se tissaient. Et quand les négriers revenaient un an ou deux ans après, ils se contentaient de demander, mais et mon fournisseur habituel, un tel, on dit il est déjà mort. Mais ils demandaient à ce qu'on les accompagne même sur les tombes de ceux-là, pour qu'ils aillent se recueillir pendant quelques minutes. Donc, étudiant la traite, en tout cas ce qui est capital du point de vue de la méthodologie, c'est qu'on ne prenne pas un petit exemple pour le généraliser à tout le continent. Qu'on dit sur telle côte, voilà ce qui s'est passé. Sur les côtes du Sénégal, il y a pas mal de résistances à la traite des résistances qui ont fini par être vaincues par la suite. Du côté du Congo, il y aurait une petite résistance de la part du roi Afonso, mais une résistance qui n'est pas absolue parce que Afonso Ier a dû vendre ses propres sujets par la suite, surtout ceux qui n'étaient pas catholiques, parce que c'était un roi très catholique qui a beaucoup défendu l'intérêt du catholicisme dont il a intensément favorisé l'implantation là-bas. Alors, ce sont des données nouvelles dont on devait tenir compte dans l'approche méthodologique de cette traite-là. À savoir que c'est très nuancé, qu'il nous faudrait beaucoup d'esprit de discernement pour pouvoir se rendre compte que les réalités ne sont pas les mêmes d'une portion de l'Afrique à l'autre, même s'il y a de grandes constantes, même s'il y a parfois des points communs. Derrière ces points communs, il y a des points de divergence et autres là. Mais en tout cas, la Côte des Esclaves, voilà comment ça s'est passé. Il n'y a aucun document aujourd'hui qui puisse nous montrer qu'à la Côte des Esclaves, il y a eu refus de la pratique de l'esclavage. Cela se pratiquait très fréquemment, au point qu'il y avait même, avant l'arrivée des négriers, des marchés d'esclaves sur le plan interne. Parce que du point de vue du vocabulaire, du point de vue de la sémantique, il y avait les mots du vocabulaire de la traite ou de l'esclavage dans lesquels figurait le mot esclave. Le mot esclave existait dans toutes nos langues d'ici, avant même que la traite ne commence avec les Européens. Ça veut dire que donc, nous connaissions le phénomène. Donc nous faisions déjà cela avant que les Blancs n'arrivent pour nous demander de bien vouloir faire ça avec eux. Et la plupart de nos souverains ont constaté que c'était des gens mieux disant que les partenaires commerciaux locaux. Donc ils fournissaient des marchandises qui ont fini par être utilisées pour rehausser même l'éclat de certaines fêtes traditionnelles ici. Donc nous avons été consentants ici, il n'y a pas de document, il n'y a aucun document qui prouve le contraire.
De la responsabilité des chefferies locales africaines dans la traite négrière du côté de Ouida, sur la Côte des Esclaves.
Dans les dernières années du 19e siècle, dans beaucoup de régions d'Afrique, avec les guerres de conquête européennes, quand il y a eu les impérialismes qui ont envahi l'Afrique pour la dominer, beaucoup de souverains se sont soulevés pour dire « mais non, on n'en veut pas du tout ». Et là, il y a eu beaucoup de mouvements de résistance et même de guerres de résistance. On connaît le cas de beaucoup de souverains comme on connaît le cas de Samori, on connaît le cas de Biogera ici, le cas de Bienzin par la suite, on connaît le cas de Kaba, etc. Donc les gens ont vu que laisser leur continent dominé par des étrangers n'est pas une bonne chose. Ils se sont soulevés. Mais pour la traite, curieusement, ils y ont vu leur intérêt, ils se sont soulevés au point que dans les dernières années du 19e siècle, or, disons deuxième moitié du 19e siècle, au moment où en Europe déjà et en Amérique, on parle déjà de suppression de la traite, l'abolition de la traite, les mouvements de la résistance à cette abolition sont venus de nous. Je voudrais dire par là en clair que l'abolition de la traite n'est pas venue de nous. Et que lorsqu'on l'a proposé, on a refusé. Nos souverains ont refusé. Le roi Glélé d'Abomey a refusé, le roi Sodi de Porte-Nouveau a refusé, le roi Kosoko de Lagos a refusé, les Blancs nous l'ont proposé et on a refusé. Et mécontents, ils ont dû nous l'imposer. On nous a imposé la suppression de la traite, puisque quand la traite a été supprimée par les Européens, nous avons continué à la pratiquer sous la forme d'une traite clandestine qu'on appelle l'interlope, avec la complicité évidemment de quelques nations européennes aussi. Mais la chose a été proposée, rejetée par nous, on nous l'a imposée, c'est difficilement que Sodi de Porte-Nouveau a accepté. Kosoko du Nigeria n'a pas changé d'attitude du tout, il dit « je continue toujours de pratiquer la traite ». Les Anglais l'ont limogé, ils l'ont démis, sans pouvoir ils l'ont enlevé du trône, et ils ont placé un autre souverain, Akitoye, qui était favorable à leur cause.
Afrique, le train de l'histoire.
Ouida, la Côte des Esclaves. L'organisation et les mécanismes du commerce négrier, le professeur Félix Iroko.
La traite a été un commerce en bonne et due forme entre deux partenaires commerciaux qui, dans la plupart des régions, se comprenaient très bien, même si dans beaucoup d'autres, il y a eu quelques réticences au départ. Mais les échanges étaient réguliers sur une base consensuelle et contractuelle. Donc chacun des partenaires a eu à bénéficier de cela. Ce que les Européens ont amené, ont pris chez nous, Ils l'ont amené dans les Amériques. Et grâce à cette main-d'œuvre très bon marché, ils ont pu développer l'Amérique et pas ricocher l'Europe aussi. Nous, on s'est appauvris parce que nous avons mal géré la contrepartie que nous recevions des négriers. On en recevait. Mais l'élément nouveau aussi qu'on ne souligne pas souvent, surtout sur cette côte des esclaves, quand on dit les négriers, on ne voyait que les blancs, en l'occurrence les Européens, qui portugais, qui hollandais, qui anglais, qui danois, qui français, etc. Mais au 19e siècle, il y a un élément nouveau qui est intervenu, parce qu'au 19e siècle, ça fait déjà des siècles que la traite se pratiquait. On était déjà vers la fin. Beaucoup de descendants de ces esclaves dans les Amériques, surtout du côté du Brésil, après l'abolition de l'esclavage et après la libération, sont revenus chez eux, avec des noms à consonance portugaise dont vous avez pu noter quelques-uns et quand vous étiez à Ouida, donc des Da Silva, Da Silveira, Da Costa, etc. Parmi eux, il y a eu des négriers. Je voudrais dire que lorsqu'on doit commencer une campagne de traite, le Yowogan, qui était le représentant du roi d'Abomey à Ouida, qui veillait donc à ses intérêts, aux intérêts du roi d'Abomey, il faisait gongonner dans tous les quartiers que c'est demain ou après-demain, c'est dans 4 jours, que la traite va commencer. Donc tous ceux qui ont de la marchandise à vendre n'ont qu'à venir la vendre. Mais le roi a déjà envoyé son contingent. D'un côté, il y a donc les acheteurs. Et désormais, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, parmi ces acquéreurs d'esclaves, il y avait des Noirs revenus du Brésil qui affrétaient de grands navires qu'ils envoyaient à leurs correspondants qui sont au Brésil. Et avec qui ils ont continué à entretenir des relations épistolaires.
Des esclaves affranchis.
Des esclaves affranchis. Qui étaient parmi de cette côte qu'on a affranchie et qui sont revenus chez eux, se sont transformés eux aussi en négriers. Des négriers que moi je qualifie volontiers de néo-négriers. Donc en plus des blancs à qui on attribue habituellement le nom de négriers parce qu'ils viennent pratiquer la traite des noirs ici, il y a eu des noirs eux-mêmes affranchis du Brésil qui sont devenus des vendeurs d'esclaves. Comme la famille d'Almeida, par exemple, la branche Nago, parce qu'il y a 3 branches au moins d'Almeida. La branche Nago, voilà un nom, par exemple, dont ceux qui le portaient ont pratiqué la traite, non pas en tant que vendeurs d'esclaves aux négriers blancs, mais en tant qu'acheteurs d'esclaves noirs qu'ils allaient revendre dans les Amériques. Je crois que les gens ne se rendaient pas toujours compte, tous ne se rendaient pas toujours compte que c'était un crime contre l'humanité qu'ils étaient en train de commettre eux-mêmes avec la complicité des négriers blancs.
Ouida, la côte des esclaves. De la responsabilité des chefferies locales dans la traite négrière transatlantique, le professeur Iroko.
On dit qu'il y avait détérioration dans les thèmes de l'échange, c'est-à-dire déséquilibre à notre défaveur. Parce que tout simplement, les négriers qui arrivaient ne nous apportaient que de la pacotille. Donc des objets de peu de valeur, de la camelote, qu'ils venaient échanger contre les hommes, les êtres humains, qui en fait n'ont pas de prix. Un homme, on ne peut pas lui chiffrer pour dire tel nombre de sacs de courrier ou ceci ou cela. Il faudrait situer chaque mot dans son contexte. Aujourd'hui, quand nous parlons de coutume, ça signifie une dimension de la culture des gens, comme on dit les us et coutumes, les habitudes, en quelque sorte la culture des gens. C'est le sens du mot coutume aujourd'hui. Mais à l'époque de la traite, le mot coutume avait une autre signification que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir les impôts et les taxes qui étaient imposés aux négriers et que ceux-ci devaient payer pour être autorisés. C'était une sorte de patente pour être autorisés à faire ce commerce-là. De même, le mot pacotille, qui aujourd'hui signifie camelote ou objet de peu de valeur, n'a jamais signifié camelote ou objet de peu de valeur dans le domaine de la traite atlantique. C'est un mot du vocabulaire de la navigation maritime de l'époque qui désignait tout simplement, en dehors des marchandises qui étaient dans la cargaison, qu'on appelait les marchandises de la cargaison, pacotille désignait les objets, les marchandises appartenant au négrier lui-même. Puisque le négrier, c'est comme un... ce n'était pas le propriétaire du navire. Ceux qui affrétaient le navire, c'était donc des armateurs qui vivaient à Nantes, Liverpool et autres là, et qui envoyaient leur capitaine, qu'on appelle négrier, sur nos côtes, pour faire ce commerce à leur profit, dans leur compte. Donc le mot, à l'époque, n'a jamais signifié cela. Maintenant, quel est le contenu même de ces marchandises qu'on amenait et qu'on a qualifié à tort de pacotille? Parmi ces marchandises, surtout sur nos côtes ici, il y avait les coris, les fameux coquillages marins qui venaient de l'océan Indien et qui ont servi pendant des siècles de monnaie chez nous. Allons-nous dire que les coris qui constituent un instrument monétaire n'était que de la pacotille? Depuis quand une monnaie peut-elle être qualifiée de pacotille quand il n'y a peut-être pas eu inflation ou dévaluation et autres là? C'était donc précieux. De deux, il faudrait reconnaître que toutes les marchandises qui arrivaient n'étaient pas de qualité supérieure. Ça ne s'est jamais passé sur aucun continent que toutes les marchandises qui arrivent d'ailleurs soient toutes de qualité supérieure. Mais cela ne posait aucun problème parce que les Noirs savaient reconnaître toutes ces marchandises-là. Et de plus, l'acquisition et l'achat de ces marchandises par les Noirs s'inscrit sur un fond de rivalité entre les fournisseurs européens. Les Portugais, qui étaient les premiers, ont dû tromper un peu nos ancêtres. Vous savez, un commerçant, en tant qu'il peut vous tromper un tout petit peu, il le fait, même entre Noirs aujourd'hui, ça se fait. Mais très tôt sont entrées dans le circuit d'autres nations que j'ai citées, comme les Hollandais, les Anglais, les Danois, les Français, etc. Une concurrence s'est instaurée entre ces différentes nations pratiquement pour les mêmes articles. Et comme vous le savez bien, la concurrence entre fournisseurs est toujours bénéfique aux consommateurs, aux acquéreurs. Et si nous devons admettre que nos ancêtres n'ont reçu que de la camelote, c'est-à-dire des objets de peu de valeur, pendant près d'un demi-millénaire, 400 ans au moins, et continuellement, sans jamais s'en rendre compte, il faut croire qu'ils n'étaient que de grands enfants. Alors que nous avons des textes qui nous montrent très clairement que les Noirs étaient très tatillons, ils étaient exigeants, ils prennent une marchandise, ils la soulèvent, ils la soupèsent, ils la montrent à leurs voisins ou à leurs voisines. Ils déposent cette marchandise, ils vont un peu plus loin, quitte à revenir quelques temps après. Donc on n'a pas dû tromper nos ancêtres pendant 400 ans. Et si tel a été le cas, ce n'est pas à notre honneur aujourd'hui que de dire que nos ancêtres ont été si naïfs et si crédules que pendant près d'un demi-millénaire, ils ont été trompés.
Ouida, le marché aux esclaves. Invité d'Afrique, le train de l'histoire, le professeur Félix Iroko, historien. Avec la participation de Serge Rustico, du musée de Ouida. Les voix de Pablo, Marc Delouvrier. Afrique, le train de l'histoire est produit et présenté par C12 Ombra. Réalisation Marc Delouvrier, mixage Marc Delouvrier et Thomas Ferrière.